Bonjour. Alors, toujours un grand privilège pour moi d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, Priscilla s'excuse. On avait une rencontre aussi familiale l'après-midi, donc on a dû se séparer pour un peu de temps. Mais en tout cas, elle vous salue très fraternellement. Donc un très beau texte d'Éphésiens que nous allons prendre. Donc vous avez commencé la série depuis quelques temps, donc Éphésiens, juste pour rappel, c'est une église que Paul n'a pas lui-même vue, mais il a beaucoup entendu parler de cette église et il est très content de pouvoir présenter le cœur du message de la foi à ces chrétiens d'Éphèse, qui sont donc jeunes chrétiens, puisque l'église vient à peine de naître depuis quelques décennies. Et donc Paul veut les encourager, leur rappeler, donc au chapitre 1, on rappelle qu'est-ce que Jésus a fait pour ses Éphésiens et pour tous les croyants. Mais quelle est l'œuvre de Jésus-Christ, quelle est l'œuvre de Dieu, qu'ils ont été rachetés. Ils font partie d'une nouvelle famille, d'une nouvelle entité. Puis au début du chapitre 2, que vous avez sûrement dû voir la semaine dernière, il proclame avec puissance la grâce de Dieu. Et il rappelle que si quelqu'un est sauvé, ce n'est pas du tout à cause de ses propres efforts, mais c'est vraiment et uniquement par la foi. Donc Paul ici est en train d'écrire aux Éphésiens et leur dit voilà les points cardinaux de la foi chrétienne. Et là il va continuer, on parle à des Éphésiens, des gens qui font partie d'une société païenne et qui se sont associés à une nouvelle communauté, une communauté de chrétiens. Et on peut fortement croire qu'ils sont persécutés. On peut fortement croire que ces Éphésiens font face à un rejet, face à une situation délicate par rapport au fait qu'ils soient devenus chrétiens, ce qui était le cas de la majorité des chrétiens de l'époque. Et face à cette situation, Paul semble les encourager. Il est vraiment en train de les encourager. Vous faites partie d'une nouvelle communauté. Vous êtes une nouvelle famille. Vous êtes des nouveaux frères et sœurs. Et c'est ce qu'il va développer tout au long de ces versets. Il va commencer en leur rappelant d'où ils viennent, d'où est-ce qu'ils viennent, ces Éphésiens, qui ils sont. Puis il va continuer en disant, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils changent de statut grâce à Jésus-Christ et sa croix. Et enfin, il va dire, voici les conséquences de ce nouveau changement. Donc d'où vous venez ? Qui vous étiez auparavant, avant de connaître Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Et qu'est-ce que cela a produit chez vous? C'est un petit peu le plan qu'il utilise dans ces versets. Et avant de continuer, je vais aussi me présenter devant Dieu. Et puis, on va méditer ce texte. Seigneur, merci pour ta parole qui touche les cœurs. On s'attend à toi, à la puissance de ton Esprit Saint, que ce soit toi, notre Dieu, qui manifeste avec force dans la vie des uns et des autres ce que tu veux nous dire. Merci, notre Dieu, pour ce texte merveilleux qui nous rappelle encore l'œuvre formidable de Jésus-Christ et la communauté qui est créée, la réconciliation que cela apporte aux uns et aux autres. Béni sois-tu, notre Roi, pour cela. En ton nom. Amen. D'où est-ce que ces Éphésiens viennent et qui ils sont? On le voit au verset... Les versets 11 à 13. Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et ici, il utilise un terme important, il utilise le terme de la circoncision. Il dit incirconcis dans la chair, incirconcis, vous ne l'avez pas été circoncis de la main de l'homme. Et la circoncision, pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose de très très important, de vraiment crucial. Je pense que vous vous en rappelez un petit peu quand on a parlé de Galates, dans les Galates, mais vous donnez quelques versets, comme dans Genèse chapitre 17, Dieu dit, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Donc ça, il dit ça au patriarche. Il montre vraiment que la circoncision, c'est une alliance, un signe d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que pour les Hébreux, la circoncision est très importante. Donc dans les instructions hébraïques, c'est au 8e jour, chaque enfant mâle, 8e jour après sa naissance, chaque enfant mâle sera circoncis. Et c'est vraiment un signe important pour eux. Et quand Paul dit aux Éphésiens, vous n'étiez pas circoncis, c'est en fait, vous étiez hors de la relation avec Dieu. Parce que ce qui faisait la relation avec Dieu, c'était la loi, les prophètes et la circoncision en particulier. Et Paul dit, vous les Éphésiens, vous ne faisiez pas partie de cette bénédiction initiale. Vous n'aviez pas l'héritage des prophètes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Joseph. Ça, c'est des choses qui, pour les Hébreux, étaient importantes et encore aujourd'hui d'ailleurs, qui définissent leur identité. Nous sommes les descendants d'eux. Et Paul dit, vous ne faisiez pas partie de ce peuple. Vous n'étiez pas en relation avec Dieu. Vous étiez loin de cela. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, on le voit dans l'Ancien Testament, il y a une distance assez forte quand même entre les Hébreux, les Israélites, et les autres peuples, les peuples étrangers. On voit que Dieu a choisi, pour un exemple, plusieurs versets, Lévitique 26, 12, Dieu dit, je marcherai au milieu de vous, au peuple d'Israël, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. En Jérémie 7, 23, voici l'ordre que je vous ai donné, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple, marchez dans toutes mes voies, dans toutes les voies que je vous ai prescrites, et alors vous serez heureux. Il y a un choix que Dieu a fait sur le peuple d'Israël, où les Israélites le savent, et les peuples extérieurs ne font pas partie de cette bénédiction. Et c'est ça que Paul rappelle. C'est vrai, jusque-là, jusque-alors, vous n'étiez pas de ce peuple. Et c'est vrai aussi pour nous, puisque la majorité d'entre nous, je pense, si ce n'est la totalité, nous ne sommes pas d'origine juive ou hébraïque, donc nous ne sommes pas descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc on pourrait dire, oui, nous aussi, nous n'étions pas de ce peuple choisi, nous n'étions pas dans la promesse. Mais ce n'est plus le cas, et c'est ce que le verset 13 dit. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches. Et vous n'êtes pas devenus proches de n'importe quelle façon, vous êtes devenus proches à cause du sang de Jésus. Et là, il explique, il rentre dans le détail, verset 14. Qu'est-ce que ça veut dire être devenu proche? Qu'est-ce que Jésus a fait qui fait que maintenant il y a une nouvelle communauté qui se crée? En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et il a renversé le mur qui les séparait, c'est-à-dire la haine. Par sa mort, la mort de Jésus-Christ, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Verset 16, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle l'inimitié ou la haine. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie distance, il y avait une vraie distance entre le peuple d'Israël et les autres peuples. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, c'est Pierre qui est, on dit, sur un toit, et il est en train de rêver. Et là, il voit un repas, beaucoup d'animaux qu'il n'est pas censé manger, donc qui sont censés être impurs selon la tradition juive. Et donc, il y a un appel, et derrière, ce qu'il dit, c'est « Tout ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. » Et il y a trois hommes qui l'appellent et qui lui disent « Voilà, un certain Corneille te recherche, il a eu une vision sur toi, il faudrait que tu viennes chez lui. » Mais il se trouve que Corneille, il est, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Corneille est, de quelle origine. Il est romain. Il est romain, donc il n'est pas juif. Et donc, quand Pierre arrive chez Corneille, vous savez ce qu'il dit? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il dit, vous savez, il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un non-juif. Il dit ça. Normalement, il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un juif, d'après notre loi. Et donc, on voit qu'il y a une distance très forte entre le peuple juif qui se sent à part, et c'est vrai qu'il était à part, était choisi de Dieu, et les autres peuples. Et c'est vrai que Dieu a voulu que le peuple juif soit à part pour rayonner sa gloire. Il a fait des choix, il a donné des lois au peuple juif pour que le peuple juif se révèle. Et le peuple juif, malheureusement, n'a pas réussi à respecter et honorer les lois. Donc, Dieu a créé une nouvelle situation. Et cette nouvelle situation, c'est deux peuples qui, au départ, étaient séparés, les juifs et les non-juifs. Eh bien, il les a rapprochés. Verset 14, « Il est notre paix, lui qui, des deux groupes, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un. Et il a renversé le mur qui les séparait, c'est-à-dire la haine. » Et ce que je trouve vraiment beau dans cette perspective, c'est de voir que des peuples qui se séparaient auparavant, en Jésus, sont aujourd'hui rassemblés. Rassemblés dans une seule communauté, rassemblés dans un seul peuple, rassemblés en un seul, presque en un seul homme. Il dira dans verset 16, « Il les réunit dans un seul corps au moyen de la croix en détruisant par elle la haine. » Et il y a quelque chose de... Je ne sais pas si vous savez que le conflit israélo-palestinien dure depuis maintenant plusieurs décennies, n'est-ce pas? Alors, il est dit qu'en fait, ça a commencé depuis qu'ils ont créé l'État d'Israël. Donc 1948-1947. Dès qu'on a commencé à créer Israël, il y a eu des conflits entre les Israélites et les Palestiniens. Et des années comme ça, où voilà, malheureusement, il y a eu cette haine. Et s'il y a bien deux peuples qui ne s'entendent pas sur la terre, hein, on pourrait dire que c'est ces deux peuples-là, parce qu'on entend parler aux informations régulièrement. Et vous savez, en fait, il y a des chrétiens israélites qui ont lu ce texte qu'on vient de lire ensemble. Et ils se disent, Dieu a créé la paix entre deux groupes, deux peuples qui ne s'aiment pas. Deux peuples qui étaient séparés, il n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur qui les séparait, c'est-à-dire la haine. Et ces chrétiens israélites, ils se sont dit, mais en face de nous, on a aussi des chrétiens palestiniens, des frères, des sœurs, des gens qui sont censés partager cette chose qu'on est en train de lire ensemble, là, en commun. Et si la parole de Dieu est vraie, ça veut dire qu'on devrait pouvoir s'entendre avec nos frères et sœurs palestiniens. Et c'est vrai que ces chrétiens israélites ont pris un risque énorme. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, 1948, imaginez, donc moi j'ai 33 ans aujourd'hui, imaginons je naissais en Palestine, toute ma vie, je serais élevé avec cette idée de me dire « L'Israélite, c'est mon ennemi. » Parce que c'est lui qui a tué ton cousin, ton petit frère. Et donc, je serais élevé dans cet état d'esprit. Et c'est comme ça que ces chrétiens israélites d'un côté et ces chrétiens palestiniens de l'autre sont aussi élevés. Il n'y a pas de différence. Et pourtant, si la parole de Dieu est vraie, alors même un conflit comme le conflit israélo-palestinien ne devrait pas séparer les chrétiens. Et c'est ce qu'ils ont pris comme défi. Ils se sont dit en 1990, donc des chrétiens palestiniens et des chrétiens israélites se sont réunis, ils ont dit, on veut croire que la parole de Dieu est vraie quand elle dit qu'elle nous unit. Parce que Jésus-Christ est mort pour ça. Donc on peut relire les versets 14, 15 et 16. Il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, c'est-à-dire la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix en détruisant par elle la haine. Et ben, en 90... ils ont créé une association, ces frères et sœurs chrétiens, palestiniens et israélites. Ils sont réunis, ils sont allés dans le désert. Ils ont dit, on veut vivre la réconciliation. Sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ce qu'on vient de lire. Si vraiment on croit que la parole de Dieu est vraie, on veut la vivre, la réconciliation. Ils sont réunis, ils étaient un petit groupe. Ils sont allés dans le désert pour prier. Et Dieu a répondu, ils ont vécu la réconciliation. Ils ont commencé à étendre ce mouvement. Donc aujourd'hui, il s'appelle Moussala, si vous voulez regarder sur Internet, sur Google, et où il promeut la réconciliation. Et ils ont tellement eu de succès qu'ils sont invités dans les écoles pour parler aux enfants de la réconciliation. C'est des chrétiens qui ont commencé en se disant « on ne veut pas se détester parce qu'on sait qu'en Jésus-Christ, on est unis ». Et aujourd'hui, ils continuent leur travail après 25 ans. Et j'ai une sœur qui était partie justement en Israël et qui avait vécu un culte avec des chrétiens palestiniens et des chrétiens israélites. Et elle m'a dit « mais tu es saisie par la présence de Dieu ». Elle a pleuré tellement, elle a vu que c'était beau. Et c'est, j'aime beaucoup me rappeler de cette histoire pour illustrer ce que Dieu fait lorsque des chrétiens acceptent son œuvre de réconciliation. Et ce qui est possible pour des chrétiens israéliens avec des chrétiens palestiniens est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on croit que Jésus-Christ nous réconcilie en Dieu, eh bien, quelles que soient les tensions ou les dissensions qu'on peut avoir avec nos frères et sœurs, sachez que la réconciliation est toujours possible. Quelle que soit la situation que vous vivez, la réconciliation est toujours possible. Mais cela est possible avant tout, pas par nos propres efforts, pas parce qu'on se lance par nous-mêmes, mais parce qu'on est réconcilié avec Dieu d'abord. Verset 16, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu. Quand Jésus-Christ est mort, on voit deux objectifs principaux ici. Le premier, c'est réconcilier l'humanité avec Dieu. Le deuxième, c'est réconcilier les hommes entre eux. Et cela passe commencer par réconcilier l'humanité avec Dieu. Et la question qui se pose et que j'aimerais vous poser, c'est êtes-vous réconcilié avec Dieu? Est-ce que vous avez une vision de Dieu comme étant ce Père qui ne vous en veut plus du tout, où vos péchés sont pardonnés? Ou alors, vous voyez ce Dieu encore peut-être un peu éloigné, où vous posez des questions, est-ce que ce que je viens de faire encore vient de l'enfoncer ou pas? Et cet appel de Éphésiens chapitre 2, verset 16, nous rappelle le cœur de Jésus pour chacun d'entre nous. Il a voulu les réconcilier. Il a voulu te réconcilier. Est-ce que la vision que tu as de Dieu, c'est la vision de ce Père? Une des plus belles histoires du Nouveau Testament, c'est l'histoire de ce fils prodigue. Et Jésus utilise l'image d'un Père pour donner l'image de Dieu. C'est le premier vraiment dans la parole de Dieu qui donne ça. Est-ce que ta vision de Dieu, c'est la vision d'un Père bienveillant, bon, qui veut développer une relation toujours plus forte avec toi? Et c'est ça qu'on voit que la parole de Dieu veut nous donner. Dieu est notre Père. Mais la question, c'est sommes-nous réconciliés avec lui? Et cela est possible par Jésus-Christ. Il a voulu nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait quand il est venu ici. Pour Jésus, il avait deux priorités, réconcilier l'homme avec son Père et réconcilier les hommes avec lui-même. Et la deuxième question que je vous pose, c'est est-ce que les relations sont une priorité dans votre vie? Puisque ça a été la priorité de Jésus-Christ. Il a voulu réconcilier Dieu avec les hommes et les hommes entre eux. Est-ce que développer des relations saines avec les chrétiens font partie de tes priorités? Parce que ça a été la priorité de Jésus quand il est venu. Il a voulu réconcilier l'un et l'autre. Il est venu verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Que ce soit les juifs ou les non-juifs, les deux avaient besoin de réconciliation. Ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on était réconcilié, ce n'est pas parce qu'on n'est pas juif qu'on ne peut pas être réconcilié. Verset 18, à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Jésus a ouvert une voie. Est-ce que tu es rentré dedans? Et si tu es rentré dedans, est-ce que la relation avec les autres fait partie de tes priorités de vie? Et les conséquences sont là, versets 19 à 22. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et là, c'est très intéressant ce que Paul est en train de faire. Il est en train de rappeler aux Éphésiens leur nouvelle famille, leur nouvelle nature, leur nouvelle identité. Il est en train de leur dire, peut-être qu'avant vous n'étiez pas de cette famille-là, mais maintenant vous êtes vraiment de la famille de Dieu. Peut-être que vous faisiez partie d'un groupe de chrétiens qu'on appelle les Éphésiens, mais vous êtes surtout la famille de Dieu. Et il est en train de marteler, vous n'êtes pas des étrangers pour Dieu. Vous êtes des gens de sa maison. Et je ne sais pas si vous êtes conscient, mais ce qu'on croit de ce que nous sommes peut déterminer beaucoup de choses dans notre vie, n'est-ce pas? Ce qu'on croit de notre identité va déterminer la façon dont on va se comporter. Imaginez que je reçois une lettre et on me dit « Oui, voilà, bonjour, alors... Sachez que vous faites partie de la même famille que Barack Obama. Oh. Vous êtes un cousin très proche de sa famille, et voilà, il vous invite et tout. Et c'est vrai que, ah bah tiens, ça fait plaisir. Le président des États-Unis aussi, là, il me connaît. Je fais partie de sa famille. Et tout de suite, je me sentirai un peu plus important. Hein. La façon dont je me comporterai, ou je dirai bonjour peut-être aux gens. Mon identité nouvelle que je viens juste d'apprendre, eh ben ça va me déterminer. Et imaginez, je reçois un courrier, excusez-nous, on s'est trompé de personne. Ça va tout de suite redéterminer la façon dont je me comporte. Oh non, dommage, c'était si bien. Ce que je crois être détermine la façon dont je vais me comporter avec les autres aussi. Et là, Paul est en train de dire, tu fais partie de la famille de Dieu. J'aimerais nous poser une question concrète. Si on fait partie de la famille de Dieu en tant que chrétien, en quoi cela doit impacter notre quotidien? Si ce qui est dit est vrai ici, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes gens de la maison de Dieu, j'aimerais que nous poser cette question concrète et dire comment est-ce que cela doit impacter notre vie dans le travail ou dans nos études. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre par groupe de deux ou trois. Ça allait arriver, n'est-ce pas? Je propose de vous mettre par groupe de deux ou trois et que vous puissiez partager le fait de savoir que je suis enfant de Dieu, gens de sa maison, de sa famille, de son peuple, en quoi cela peut faire la différence dans mon travail ou dans mes études. En quoi cela devrait m'amener à vivre différemment dans mon travail ou dans mes études? Ça va? Voilà, en quoi est-ce que faire partie du peuple de Dieu peut changer la façon dont je me comporte dans mon travail ou dans mes études? Voilà, si on peut se mettre par deux ou trois, qu'on puisse partager sur ça. Si vous ne connaissez pas, effectivement, présentez-vous. Mais c'est vrai que parfois, ça devient théorique, n'est-ce pas, hein? On le sait, puis ça n'impacte pas notre quotidien. Mais c'est justement notre désir, c'est que la conscience de cette réalité puisse changer la façon dont on se comporte au quotidien. Est-ce que quelques-uns pourraient partager, justement, ce qu'ils ont pu dire dans les groupes? N'essayez pas de désigner votre voisin. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire un petit peu? Quelque chose qui vous a encouragé, par exemple, que quelqu'un d'autre a dit? Oui, vas-y, Michael. Tout à fait. C'est ça. Merci. Oui. C'est vrai. N'est-ce pas, hein? Je pense que ça arrive à vous aussi qui témoignez. Quand on dit qu'on est chrétien, bah les gens ils vont nous regarder. Et qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Bah, c'est ce que je vis. Et ça, c'est. Et on est effectivement, on représente Dieu. On est ambassadeur, c'est le terme qui est utilisé par Paul. On est ambassadeur auprès de notre travail, auprès de nos études. Les gens ont besoin d'ambassadeurs. Et quelqu'un dira, vous êtes une Bible, vous êtes une Bible ouverte pour les non-chrétiens. À travers vous, Dieu se révèle. Merci. Peut-être un autre groupe, d'autres personnes? Oui. D'accord. Ah. Oui. Ah, superbe. Bah oui. Voilà. C'est ma médecin, je vais. Ah, superbe. Merci beaucoup. Effectivement. Et vous savez, Paul essaye vraiment de rajouter aux Éphésiens une valeur de qui ils sont. Parce que, encore une fois, ce que vous pensez être, l'identité que vous avez et que vous croyez, va déterminer la façon dont vous allez vous comporter. Si vous avez honte de qui est Dieu ou de votre foi, ben, votre attitude va refléter cela. Mais si vous êtes fier que c'est Dieu, que c'est le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître de l'univers qui vous habite, alors votre façon de vous comporter avec les autres, vous allez vous dire, mais moi j'ai tout, c'est la personne qui n'a rien. Il a besoin de Dieu, il a besoin. Et donc Dieu veut nous encourager, nous fortifier dans une certaine fierté de dire, oui, tu connais Jésus-Christ, tu as ce qui est essentiel, partage-le, parce que les autres en ont vraiment besoin. C'est un trésor et les autres en ont besoin. Merci Eliane. Est-ce qu'une dernière personne peut-être voudrait partager? Ce qui s'est dit en groupe, qui vous a encouragé ou que vous avez pu partager avec les autres. Soyons fiers. Allez, vas-y, silence. C'est vrai. Oui. Merci beaucoup. Nos paroles, notre attitude reflètent aussi Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire aussi une chose, c'est que c'est vrai qu'on doit aller au travail ou aux études avec cette perspective, se dire, Seigneur, je ne suis plus un étranger, je suis ton enfant. Et je vais y aller dans cette perspective-là. Mais parfois, hein, on va chuter, on va peut-être avoir des mauvaises paroles. Et j'ai remarqué que les non-chrétiens sont tout aussi touchés quand vous dites pardon. Que c'est vrai que parfois on n'est pas parfait en tant que chrétien, mais on sait demander pardon. Et n'hésitez pas, si vraiment un jour vous vous dites, ah là, c'est pas le témoignage que j'aurais voulu laisser. Ne vous dites pas, ça y est, c'est gâché, c'est fini, ça y est, vaut mieux plus que je dise que je suis chrétien parce que ça ne sert à rien. C'est, n'hésitons pas à demander pardon. Écoute, là-dessus, je voulais juste te dire, je suis peut-être un peu trop loin. Et les non-chrétiens sont tout aussi touchés par quelqu'un qui sait reconnaître ses fautes. Parce que c'est notre situation. Nous faisons des erreurs aussi parfois. Mais c'est la force du chrétien, c'est qu'il sait qu'il peut être pardonné. Nous avons ses péchés, mais nous avons aussi ce pardon. Et c'est exactement pour ça qu'on est chrétien. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons reconnu que nous avons des erreurs et des fautes. Et le dernier point, c'est que Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous faisons partie de sa famille, et de ce fait, regardons nos frères et sœurs comme des frères et sœurs. Juste pour terminer avec cette anecdote, imaginez, moi, quand je prends la voiture, souvent, je passe devant un feu et il y a des personnes qui font la manche, qui tendent un écriteau, disent voilà, pour manger. Et je me suis dit, si un jour, voilà, ces personnes qui passent devant cet homme sans s'arrêter, si un jour l'un de ces chauffeurs qui conduit reconnaît son frère qu'il n'a pas vu depuis 5 ans au feu, en train de mendier, qu'est-ce qu'il va faire, cette personne-là ? Il va reconnaître son frère qu'il n'a pas vu depuis 5 ans. Ben, il va s'arrêter. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait 5 ans qu'on te cherche. Il va s'arrêter, il va le rentrer dans sa voiture, il va l'amener, il va le laver. Pourquoi ? Parce qu'il va reconnaître son frère. Il va se dire, c'est mon frère. Même si son odeur, ses habits, tout ça, ça compte plus, parce que c'est mon frère. Et je crois que c'est un peu l'image que j'aimerais laisser par rapport à l'Église. Si on vient à l'Église en se disant, bah, c'est d'autres amis qui viennent le dimanche matin avec nous, ou le dimanche après-midi avec nous, bon, il n'y aura pas trop d'impact. Mais si on se dit, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est celui que Jésus-Christ a racheté au même titre que moi, et il a dit, nous sommes frères et sœurs. Si la personne à ma gauche, la personne à ma droite, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et c'est le terme que la parole de Dieu utilise, n'est-ce pas ? Frère et sœur en Christ. Alors notre attitude va changer. Je veux son bien, je veux son intérêt. Je veux ce qui est bon pour lui ou pour elle. Et c'est mon encouragement que chacun d'entre nous, nous puissions voir notre Dieu comme notre Père, parce que nous faisons partie de sa famille, mais aussi voir nos frères et sœurs comme nos frères et sœurs. Des gens qui comptent pour notre Père et donc qui doivent compter pour nous. Et je vais faire la prière que Paul fait, et c'est celle que vous allez lire normalement dans 2 semaines. Il prie que notre amour puisse grandir, qu'on puisse comprendre et que notre amour puisse grandir. Et je vais prier pour chacun d'entre nous pour terminer ce message. Seigneur Dieu, je veux fléchir les genoux comme Paul et demander pour cette église de Saint-Maur que tu fortifies cette église, chaque frère, chaque sœur, par ton esprit. Que chaque frère, chaque sœur ici présent soit conscient que tu les as rachetés, que tu les aimes et qu'ils font partie de ta famille. Que maintenant, dorénavant, ils peuvent s'appeler enfants de Dieu, eux aussi, et qu'ils font partie de la maison de Dieu. Je te prie aussi d'ouvrir les cœurs pour que nous soyons tous conscients que celui qui est à ma droite, celui qui est à ma gauche, c'est mon frère, c'est ma sœur, et que tu me demandes de l'aimer comme tu l'aimes. Je te prie d'ouvrir nos cœurs et nous permettre de comprendre qu'en effet, l'amour doit être au centre de nos relations. Que nous ne laissions aucune tension se mettre entre nous, mais que nous sachions demander pardon, nous sachions nous réconcilier, comme tu nous as réconciliés avec le Père. Merci notre Dieu encore pour ce temps de partage et d'échange, où nous souhaitons voir ta parole au centre de nos vies et où nous souhaitons marcher chaque jour au travail, dans les études, avec cette conscience. Je suis un enfant de Dieu. En ton nom. Amen.